soyez les bienvenus à l'écoute de cette émission Parole de vie. Bon, c'est vrai, c'est un peu osé de parler de la mort et de la maladie sur une radio dont on espère qu'elle est écoutée par toujours plus de jeunes. Mais faut pas croire, hein, les jeunes, ça les travaille, la précarité, l'avenir incertain, la planète en sursis, etc. Alors non, la mort est un sujet toujours d'actualité et pour tous les âges. La preuve, grand corps malade qui espère combattre le mal par les mots.
On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision, de prendre une route parallèle comme une furtive évasion. On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume et qu'on écrit de la poésie? Il existe, paraît-il, un instant dans l'écriture qui oublie la page blanche et efface les ratures. Un véritable état second, une espèce de transe qui apparaît mystérieusement et s'envole en silence. Que l'on rappe ou que l'on slame, on recherche ce moment. Il allume une flamme qui nous éclaire brièvement. Cette flamme est la preuve, laisse-moi t'en faire une démo, qu'il est possible de combattre le mal par les mots. C'est tout sauf une légende, on espère juste toucher l'instant, les quelques secondes du poète qui échappe à l'espace-temps, les moments rares et irréels que la quiétude inonde. Rouda n'oublie jamais notre parole du bout du monde. On ressent comme une coupure dans la nuit, comme un rêve. On oublie les coups durs de la vie comme une trêve. C'est un phénomène puissant, je ne te parle pas d'inspiration, mais d'un souffle plus profond comme une seconde respiration. On voit et on entend l'encre devenir vivante. On goûte et on sent la saveur d'une rime errante. On touche du doigt l'instant qui nous enveloppe de sa puissance. C'est sans cesse la renaissance de l'essence même de nos cinq sens. C'est le moment où on passe de l'autre côté des paysages. On sympathise avec le vent et on tutoie les nuages. Il fait jour en pleine nuit et il fait nuit en plein jour. Profite de cet instant, il ne durera pas toujours. C'est tout sauf une légende, on espère juste toucher l'instant, les quelques secondes du poète qui échappe à l'espace-temps, le moment où le voile se lève et la magie s'élance, là où j'ai croisé Souleymane au bout du sixième silence.
Nicole Carré, elle aussi, a utilisé les mots pour combattre ses maux, une leucémie foudroyante. Mais elle n'a pas seulement utilisé les mots, elle est croyante et elle s'est sentie portée dans l'épreuve dont elle nous fait part au micro de Farid Sergi.
Est-ce que vous avez été tenté à un moment ou à un autre de...
Par le suicide ?
Oui, ou simplement par une espèce d'euthanasie où vous auriez demandé à ce qu'on abrège vos jours.
Dans la maladie, jamais.
Quand vous étiez en phase comme ça,
dans
terminale.
Dans la maladie, jamais.
Jamais.
Hors la maladie, j'ai eu envie de mourir, comme beaucoup d'autres gens.
Pourquoi est-ce que dans la maladie, jamais ?
J'en profite quand même, oui. J'ai envie de dire quelque chose qui peut être aidant. C'est qu'il y a une différence entre avoir envie de mourir comme idée, c'est-à-dire se dire « si j'étais mort, ce serait bien mieux », et comme la pulsion, le mouvement de risquer de se jeter sous le train, de se jeter par la fenêtre. C'est totalement différent et ça peut être très aidant d'essayer de voir soi-même ou quelqu'un qui est concerné, à voir si c'est Si j'étais mort, ce serait bien mieux, ou s'il a vraiment envie de mourir. Alors là, c'est important, mais dans les deux cas, il y a une aide à apporter qui n'est pas la même. Dans la maladie, je ne me suis jamais sentie concernée par ça, et je me souviens quand j'étais en réanimation, pouvant parler très, très, très peu et seulement à certains moments, avoir dit à la fois « je ne veux pas d'euthanasie et je ne veux pas souffrir ». Mais j'ai souhaité mourir, ce qui n'est pas du tout la même chose, à des moments de grande fatigue, parce que j'étais tellement fatiguée que je ne pouvais plus porter mon corps. Mais ce n'était pas des convictions morales qui faisaient que je ne voulais pas mourir. J'étais attachée à la vie, mais j'étais tellement épuisée que je ne pouvais plus la porter. Ça me paraît une différence fondamentale. C'est qu'il y avait en moi ce fil de vie qui était très très profond. Peut-être pas dans mon corps, mais dans le fond de mon être. Et ça me paraît important de voir que nous sommes un corps, une âme et un environnement. C'est-à-dire qu'à certains moments, c'est le corps qui porte. À d'autres moments, c'est l'âme qui porte. À d'autres moments, ce sont les deux ensemble, à d'autres moments ce sont les autres, et je me suis toujours sentie portée par mon âme et par les autres. Alors si je n'avais pas été portée par les autres à certains moments, et notamment par mon mari, je ne sais pas très bien ce que j'aurais fait, mais il me semble que j'aurais peut-être désiré mourir, mais que je n'aurais pas demandé l'euthanasie. Parce que demander l'euthanasie, pour moi, c'est me couper des autres. Et j'ai tellement senti que nous sommes liés les uns aux autres que je ne peux pas me couper des autres. J'ai senti aussi que ma maladie ne m'appartient pas et que nous sommes liés les uns aux autres. Et tant de gens m'ont dit « tu es comme un premier de cordée ». Il faut que tu nous dises ce que tu vis ou que tu nous, si tu ne peux pas parler, que tu nous l'exprimes par ton être. Nous avons besoin de toi, que je me sens engagée. Si je demande l'euthanasie, je ne peux pas considérer que je suis un individu unique, je suis liée aux autres. Et la preuve en est, c'est que quand on va mourir, pour le malade comme pour les autres, ce qui nous fait très mal, c'est la séparation. Donc nous sommes des êtres de relation. C'est très vite dit, mais je pourrais le développer longuement. Ce ne sont pas des questions directement morales qui font que je n'opte pas pour l'euthanasie. C'est ce qui fait l'essence de l'être, qui est la relation. Alors j'en profite pour ajouter que quand on souffre beaucoup, et que beaucoup de gens demandent l'euthanasie, soit parce qu'ils souffrent beaucoup, soit parce que l'entourage ne supporte pas leur souffrance. Et quand on souffre beaucoup, il faut vraiment lutter contre la souffrance, et puis il faut faire une sédation éventuellement. Mais la sédation n'est pas l'euthanasie, la sédation c'est « je m'en remets à vous et je mourrai entre vos mains ».
Comment préparer sa mort? Comment être prêt? Comment ça peut se passer si justement on ne se pose pas dans une attitude d'euthanasie active où on va dire à telle heure on décide que... Mais si on n'entre pas dans cette démarche-là, mais qu'on laisse les choses faire, comment alors on peut préparer sa mort dans la mesure où on n'en a pas la maîtrise?
Ça ne se prépare pas au dernier moment. C'est un chemin qui se fait avec les événements et chaque étape peut, si je prends un langage chrétien, je dirais, porte sa grâce. Chaque étape fait que nous avons une énergie pour vivre ce qui va être à vivre avec les difficultés et les richesses. Parce que quand l'autre meurt, quand quelqu'un meurt, la question c'est est-ce qu'on va être ensemble ou chacun de son côté? Et dans beaucoup de familles, il y a tellement de non-dits où le malade dit « ne leur dites pas que je vais mourir ». La famille de son côté dit « ne lui dites pas qu'il va mourir ». Et chacun est seul. Et il y a des paroles qui ne sont pas dites. Il y a des baisers qui ne sont pas donnés. Il y a des pardons qui ne sont pas donnés. Et on devient individu alors qu'on est famille, qu'on est relation, même si on n'a pas de famille. Et ça, c'est un chemin qui doit se faire. Et la mort advient quand elle advient. Alors, le Christ dit, nous ne savons ni le jour ni l'heure. En même temps, beaucoup de malades la pressentent, la mort. Et il arrive pourtant que même si la famille est tout le temps là, il meurt dans les 5 minutes où la famille est allée chercher une tasse de café. C'est très fréquent, parce que quand on meurt, je suis allée jusqu'au bord de la mort sans mourir, quand on meurt, il y a un retrait du monde. Tous les sens se retirent du monde. Non pas que on soit... C'est difficile à expliquer. C'est pas une indifférence au monde, mais on devient totalement soi-même, on entre en soi-même.
On meurt vraiment seul, toujours.
On meurt vraiment seul. Beaucoup de malades meurent quand la famille est absente ou les soignants. Mais il y a au préalable tout un chemin à faire ensemble.
Vous en avez parlé.
Ou à ne pas faire. Nous en avons parlé dès le début de ma maladie. Quand je suis entrée à l'hôpital, au moment de ma rechute, mon mari a dit « nous serons ensemble ». Et ce « ensemble » signifiait que nous avons vécu ensemble chaque étape de la maladie. Il était dans le total respect de moi-même et c'est là qu'il pouvait m'accompagner parce que nous nous étions engagés l'un envers l'autre. Quand on est à l'extérieur, on peut dire facilement « Ah, quelle belle histoire, quel beau couple !» Il y a ce qu'on peut voir d'un couple. Et il y a le reste aussi. Et j'ai envie de dire que tous les orages traversés par un couple peuvent aussi faire qu'il y a un magnifique arc-en-ciel. Et les soignants ont été très proches aussi parce que nous avons parlé. Et quand j'ai demandé comment j'allais mourir, on m'a répondu, mais je n'ai pas compris ce qu'on me disait, vous arrêterez de respirer, ce qui est tellement banal. Mais en fait, je n'avais pas compris que mes poumons étaient dans un tel état que c'était ça qui ferait lâcher. Mais on a ajouté, nous serons avec vous. Et donc, je pouvais me centrer sur ce que la mort a d'acte personnel, parce que les autres prenaient leur part. Et je crois que ça, c'est très important. Il peut y avoir des gestes à faire qui sont rattachés à une communauté de foi, mais au-delà de ces gestes, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne? Comment va-t-on la respecter et la voir jusqu'au fond de son être?
Disons pas, tout cela est trop difficile pour moi, nous ne savons pas ce dont nous sommes capables.
Je crois qu'il y a en nous une capacité de nous ouvrir à l'instant, qui peut venir de nous, qui peut venir des rencontres, et que nous pouvons tous faire un chemin absolument faramineux, et que le grand malheur de l'être humain, c'est de ne pas croire en ses capacités. Non pas en ses capacités de pouvoir, en ses capacités de conquérir, d'écraser l'autre, de faire, mais de ne pas croire que le fond de lui-même est divin. Et même j'ai des amis athées qui entendent ça, que le fond de notre être est capable du meilleur et du pire, et nous pouvons aller vers le meilleur. Mais il faut aussi demander de l'aide, et se demander de l'aide à soi-même, ou la demander à Dieu, ce qui est en partie la même chose.
Cette émission a été réalisée par Farid Sergi et elle fait partie d'une série Paroles de vie intitulée « Mieux préparer sa vie ». Nicole Carré fait entendre une parole rare, celle d'une femme qui a côtoyé la mort et ses propos sont pleins de vie. Sommes-nous aussi vivants qu'elle? La question est posée. Vous désirez obtenir gratuitement le CD de cette émission, écrivez-nous à Parole de Vie, boîte postale 310, 18007 Bourges-Sedex. Parole de Vie, boîte postale 310, 18007 Bourges-Sedex. Ou alors sur internet www.parole.ch.